don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家，正
忙着跟你们聊天。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde par Emmanuel Morse-Duncan. Troisième volet de notre série consacrée aux énergies, on va parler ce matin de charbon. Bien qu'étant un horrible émetteur de dioxyde de carbone, le charbon est pourtant classé au deuxième rang des énergies les plus consommées au monde et même au premier rang s'agissant de la production d'électricité. Depuis de nombreuses décennies maintenant, nous observons ici en Europe le déclin de ce charbon, les sites de production fermant les uns après les autres. La dernière mine française a fermé en avril 2004 en Lorraine. Plus récemment, en décembre dernier, c'est l'Angleterre qui fermait Kellingley, la dernière mine souterraine de Grande-Bretagne. Mais la Chine a pris le relais de l'Europe, devenant le premier pays producteur. Pourtant, pour la première fois depuis de longues années, sa production a baissé. Alors qu'on répétait à l'envi que, au grand dam des écologistes, les Chinois voyaient dans le charbon son avenir énergétique, il semble que les choses soient en train de changer. Charbon vers la fin d'un âge d'or.
Bonjour. Déclarer la guerre à la pollution, ça ne veut pas dire déclarer la guerre à la nature. Au contraire, nous déclarons la guerre à l'inefficacité et au caractère insoutenable de notre modèle de développement et de notre mode de vie.
Le secteur chinois du charbon fait face à une demande faible et à des stocks en hausse. La chute des cours du charbon a également placé l'activité des entreprises du secteur face à des difficultés. Des dizaines d'usines ont été arrêtées. Je pense que de nouvelles usines vont à l'avenir devoir fermer car nous n'avons pas besoin de telles capacités de production. L'échelle des pertes dans le secteur du charbon a atteint les 80%.
En fait, en parallèle de ces fermetures, la Chine construit de nouvelles centrales à charbon plus à l'ouest, dans le Xinjiang ou le Shaanxi ou la Mongolie intérieure, des provinces où la densité de population est moindre qu'à Pékin et où il y a moins de médias.
Le Premier ministre chinois Li Keqiang avait donné le cap, changé de modèle de développement, ce qui n'est pas sans conséquence bien sûr pour le secteur du charbon qui l'année dernière a souffert, nous disait en décembre dernier le président de l'association chinoise du charbon, même si on continue de construire des centrales à charbon. Pendant des années, on s'inquiétait de voir cette Chine prendre le relais de la production et de la consommation de charbon, et pour cause, en l'espace de 10 ans entre 2004 et 2014, elle avait même doublé, devenant le premier pays producteur avec 4 milliards de tonnes chaque année, la moitié de la production mondiale. Et pourtant, la Chine aussi connaît une crise du charbon. En septembre dernier, le premier exploitant minier du pays, Longmei Group, annonçait la suppression de 100 000 emplois. Les autorités chinoises ont récemment annoncé un moratoire de 3 ans sur l'ouverture des nouvelles mines de charbon, et ce pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2016. Bref, l'avenir du charbon ne semble plus aussi radieux sous les cieux de l'empire du milieu. Alors comment le comprendre ? S'agit-il d'une crise durable, passagère ? Le charbon peut-il totalement disparaître de son mix énergétique ? Au-delà du cas chinois, on va s'intéresser au marché mondial du charbon. Quels sont les grands pôles de production, de consommation ? Comment se sont-ils déplacés ? Sous l'influence de quels impératifs économiques, écologiques ? Des États-Unis à l'Asie en passant par l'Europe, quel avenir pour les gueules noires et les centrales au charbon ? Les pays pauvres, en Afrique, en Asie, pourront-ils se passer de charbon pour construire leur développement ? Voilà un certain nombre de questions qui vont nous intéresser ce matin. Du côté du vieux continent, la pression anti-charbon est forte, le robinet à subvention se tarit, mais certains pôles résistent, c'est le cas notamment en Allemagne, mais aussi en Pologne. Comment le comprendre ? On en parlera tout à l'heure avec Michel Valdelièvre. Et puis dans ce déclin du marché traditionnel, historique, l'Inde occupe une position à part, puisqu'elle a semé le trouble à la COP21 en annonçant non seulement ne pas vouloir limiter sa production de charbon, mais au contraire, la doubler d'ici à 2020. On en parlera tout à l'heure également avec un autre intervenant indien, Rajiv Agrawal. Pour évoquer cette question du charbon ce matin, en duplex avec nous depuis Grenoble, Jean-Marie Martin Amouroux, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, ancien directeur de recherche au CNRS. Vous êtes également secrétaire général de l'Encyclopédie de l'énergie de l'Institut National Polytechnique de Grenoble et puis auteur de cet ouvrage « Charbon, les métamorphoses d'une industrie ». Je le disais dans mon introduction, pendant longtemps, on a dit « voilà, c'est la Chine qui va prendre le relais de la consommation de charbon, de la production de charbon ». Et puis quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai sous les yeux quelques titres d'un certain nombre de quotidiens. « Chine, un moratoire de 3 ans sur les nouvelles mines de charbon ». En Chine, la flamme du charbon s'éteint peu à peu. L'économie chinoise ne carbure plus au charbon. La Chine veut fermer 1 million de mines de charbon en 2016. Ça, c'est pour Le Monde, il y a quelques jours. La Chine ferme les centrales à charbon situées à Pékin. Bref, on a le sentiment que finalement, l'âge d'or du charbon est derrière nous. Et pas seulement en Europe, partout dans le monde, y compris en Chine.
Oui, alors, c'est tout à fait exact, à condition de ne pas en déduire la fin du charbon. Tout simplement parce qu'en Chine, le coup d'arrêt de la croissance qui est intervenue depuis l'année passée est tout à fait exact. Et nous allons probablement avancer un certain nombre d'explications. Mais il ne faut pas oublier que la Chine continue à développer son parc de centrales thermoélectriques charbon, que d'autre part, elle conserve une sidérurgie vigoureuse et que même dans ce pays, la consommation de charbon probablement ne croîtra plus comme elle a cru dans le passé, mais vraisemblablement va au minimum atteindre un palier qui stabilisera la consommation autour de 4 milliards de tonnes, peut-être un tout petit peu moins, pendant un certain nombre de décennies.
Mais un palier et pas une baisse, parce que vous avez raison de rappeler que, en fait, si on regarde les choses de près, le monde n'a jamais autant extrait de charbon qu'aujourd'hui, sauf que cette hausse de la consommation mondiale, elle est en net ralentissement depuis 3 ans maintenant. Elle a augmenté en 2014 de 0,4% contre 3% en 2013, 5,4% en 2011. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre quand même à ce que dans les prochaines années, eh bien, cette consommation de charbon baisse ?
Alors, la consommation de charbon a cru au taux annuel moyen de 2,5% depuis la fin des années 1970. Ce fut une surprise pour la plupart des observateurs, car depuis la Première Guerre mondiale, le charbon ne cessait de reculer dans le monde. Il se trouve qu'au lendemain des deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979, un très grand nombre de pays ont repris le chemin du charbon, d'un côté, et que d'autre part, les économies émergentes d'Asie ne disposant guère d'autres sources d'énergie que le charbon, se sont mis à en consommer de plus en plus. D'où cette extraordinaire croissance au rythme de 2,5% par an, supérieure au rythme de toutes les autres sources d'énergie fossiles au cours de cette période. Mais le coup d'arrêt est intervenu à partir de la fin des années 2013 pour un certain nombre de raisons, en particulier parce que la Chine a cessé de tirer la croissance de la consommation mondiale, comme elle le faisait jusque-là, à des taux proches de 10% par an.
D'accord, donc pour vous, c'est d'abord et avant tout le ralentissement de l'économie chinoise qui explique tout ça. Finalement, cette crise chinoise du charbon, elle est conjoncturelle et pas forcément structurelle.
Alors, non, elle est vraisemblablement les deux. Comme toujours, on n'a pas affaire à une seule cause. On a à la fois des causes conjoncturelles qui tiennent au très fort ralentissement de la croissance économique de la Chine, mais on a aussi des causes structurelles qui tiennent d'une part au changement de composition de la croissance économique chinoise qui tourne le dos aux industries très grosses consommatrices comme la sidérurgie, la chimie, la cimenterie, au profit d'industries moins grosses consommatrices, d'une part, et d'autre part, réagit aux graves dégâts entraînés par la pollution atmosphérique, en particulier la pollution atmosphérique urbaine, et tente donc de limiter la consommation de charbon d'abord dans les zones urbaines et d'abord dans les usages autres que la thermoélectricité.
D'accord, donc si je vous comprends bien, il y a le ralentissement économique, mais ça pourrait aussi constituer une opportunité pour la Chine, pour faire monter en puissance les énergies renouvelables et faire baisser peut-être la part du charbon. La question, Jean-Marie Martin Amouroux, du prix du charbon. Aujourd'hui, le charbon est très bon marché. Il n'a pas cessé d'ailleurs d'ailleurs baissé tout au long de l'année 2015, à l'instar du pétrole d'ailleurs. Il n'y a pas de prix unique évidemment, mais il a globalement baissé un petit peu partout. Comment l'expliquer? Ce sont les mêmes raisons que pour le pétrole, les surcapacités, les stocks pleins, comment le comprendre?
Oui, alors, les prix du charbon ont considérablement baissé depuis... La baisse a commencé à la fin des années 2011 et elle s'est accélérée au cours des années 2013, 2014, 2015. Bien. Aujourd'hui, on trouve du charbon vapeur à moins de $60 la tonne et des charbons coquets fiables à moins de $90 la tonne. L'explication tient essentiellement à des excédents de capacité de production. Dans la mesure où de très gros investissements d'extraction avaient été réalisés en perspective d'une croissance continue des importations chinoises, et comme cette croissance s'est arrêtée, les producteurs de charbon se sont retrouvés avec des capacités de production en excès, et donc l'obligation de laisser tomber les prix pour pouvoir écouler au minimum les stocks sur les carreaux des mines.
Et est-ce que les prix vont rester durablement bas ou est-ce qu'ils peuvent rebondir?
C'est toujours très difficile de faire des pronostics dans ce domaine. Ce qu'on peut penser, c'est que des prix au niveau auquel ils sont tombés à l'heure actuelle sur le marché international, ces prix peuvent encore glisser un tout petit peu, mais pas beaucoup plus, parce que en dessous de $50 la tonne, pratiquement, on aurait beaucoup de peine à continuer à approvisionner ce marché. Alors, en revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces prix internationaux ne sont pas les prix sur le carreau des mines pour les pays qui ont des usages, en particulier des centrales thermiques, sur le carreau de la mine. Parce que sur le carreau de la mine, vous pouvez encore descendre à des prix beaucoup plus bas. Actuellement, on a en extraction de surface des charbons à $15-$20 la tonne qui permettent d'approvisionner encore des centrales thermiques à des prix très très bas.
Alors, si la Chine a marqué le monde de son empreinte en devenant le premier producteur mondial, quasiment la moitié du total, je le disais, d'autres nouveaux acteurs ont émergé sur ce marché ces dernières années. Je pense notamment à l'Inde et puis également à l'Indonésie, respectivement 3e et 6e producteur mondial. Petit détour du côté de l'Indonésie, justement, écoutez.
L'exploitation minière représente le pillage de nos ressources naturelles. C'est une grande entreprise d'extorsion de nos richesses organisée par les pays développés. États-Unis, Europe, Japon, Australie, ils ne viennent ici que pour faire un maximum de profit et nous ne percevons rien des bénéfices qu'ils réalisent.
Au classement de la qualité des affaires, l'Indonésie est classée 96 sur 96. À cause de l'incertitude sur les régulations. Du coup, les acteurs ont changé. Ceux que j'appelle les mineurs traditionnels, comme les Australiens, les Américains, Canadiens, Européens, maintenant, ils vont attendre et voir ce qui se passe. Les nouveaux acteurs sont les Chinois, Coréens, Indiens. Ce sont des spéculateurs qui ne voient dans les mines qu'une opportunité. Ils deviennent subitement mineurs lorsque le prix des matières premières augmente. En Indonésie, nous avons besoin de mineurs responsables, qui respectent les conditions de travail, qui se soucient de l'environnement et qui ne payent pas de pot de vin.
Voilà, l'Indonésie, le nouveau tigre asiatique, c'était un extrait d'un reportage qui avait été diffusé en mars 2014, Un œil sur la planète. Cette Indonésie, nouvel acteur sur le marché du charbon. Cette région-là, Jean-Marie Martin Amourou, l'Asie du Sud-Est avec l'Indonésie, mais aussi peut-être la Thaïlande, le Vietnam, affiche des prévisions de croissance importantes en la matière. Ce sont les pôles de demain où on attend les croissances les plus importantes en matière d'extraction de charbon.
Oui, c'est tout à fait exact. Lorsque l'on regarde les décennies à venir, on peut, de façon très, très, très globale, dire que le charbon va continuer son retrait dans les pays européens, aux exceptions près que vous avez mentionnées dans votre introduction, qu'il va vraisemblablement se tasser aussi en Amérique du Nord, qu'on peut penser qu'il va atteindre un plafond et peut-être même commencer à diminuer un tout petit peu en Chine, mais qu'en revanche, il va continuer à croître et à croître de façon vigoureuse dans toute l'Asie du Sud-Est. Alors l'Asie du Sud-Est, c'est naturellement d'abord l'Inde, qui s'approche du milliard de tonnes. Pour donner aux auditeurs des points de repère, 4 milliards en Chine, 1 milliard, à peu presque 1 milliard en Inde. Hein. Voilà. Bon. Et puis ensuite, c'est tout le reste de l'Asie du Sud-Est qui va du Pakistan au Vietnam, en passant par la Thaïlande, les Philippines, etc. Alors, dans cet ensemble, le gros producteur est l'Indonésie, qui nous a offert ce spectacle absolument extraordinaire d'un pays qui, en 1980, pratiquement ne produisait rien et qui, aujourd'hui, a dépassé les 300 millions de tonnes.
Et qu'est-ce qu'on fait de ce charbon-là ? C'est un charbon qu'on va exporter, qui est également à usage domestique ?
Alors, c'est un charbon qui est essentiellement produit dans l'île de Kalimantan, que nous appelions autrefois, que nous continuons peut-être à appeler Bornéo. Ce charbon est essentiellement exporté. Il est développé par des compagnies nationales et internationales, mais enfin surtout nationales, à des fins d'exportation. Il se trouve que ce n'est pas un charbon à très fort pouvoir calorifique. D'où un certain nombre de mesures qui ont été prises, par exemple en Chine, pour limiter les importations de charbon indonésien, précisément parce que ce n'était pas du charbon à fort pouvoir calorifique comme le charbon australien. Du coup, l'Indonésie a décidé elle-même de limiter ses exportations pour recentrer sa production de charbon sur l'alimentation de son parc de centrales thermiques qui est en pleine expansion. L'Indonésie a décidé de construire 10 gigawatts de centrales thermiques charbon qui vont s'ajouter au parc déjà existant, et tout ceci à partir du charbon de Kalimantan.
Alors, on va rester dans la région, Jean-Marie Martin Amouroux, on va prendre la direction de l'Inde, parce que le pays qui, dans les prochaines années, va tirer cette demande en charbon, eh bien, c'est l'Inde, justement.
Nous avons énormément de chances d'avoir autant de charbon et de si bonne qualité. Nous contribuons ainsi au développement du pays. Si on l'appelle l'or noir, c'est parce que c'est lui qui nous fournit cette précieuse électricité. C'est vraiment comme de l'or. Le charbon, c'est une bénédiction.
Quand nous sommes venus en 2013, nous avons vu des énormes rochers rouler. Si les gens refusaient de quitter leur maison, les employés de Reliance faisaient rouler ces énormes rochers sur leur toit pendant la nuit. C'est le genre de méthode utilisée pour étendre l'activité des mines.
Il y a 7 ans, une entreprise privée nous a demandé de partir contre de l'argent. J'ai refusé, alors ils ont creusé un trou autour de ma maison. Elle est maintenant à 6 mètres du sol.
Nous ne sommes pas responsables du réchauffement climatique. Ce sont les pays développés qui ont provoqué le réchauffement climatique, pas l'Inde. Ce que je demande aux pays développés, retirez-vous de l'espace carbone et laissez-moi prendre la place que vous occupez depuis 250 ans déjà.
Et voilà, laissez-nous la place, le charbon, une bénédiction pour ces Indiens, une bénédiction qu'elle n'entend pas abandonner, même pour réduire son impact sur l'environnement. Dans le jeu mondial du charbon, l'Inde a su aussi créer la surprise. On parlait de l'Indonésie, mais là aussi, il y a de la surprise. À l'issue de la COP21 l'année dernière, par la voix de son secrétaire d'État chargé du charbon, elle a annoncé vouloir doubler sa production d'électricité à base de charbon d'ici 2020. Même si, rappelons-le également, dans le même temps, Narendra Modi, le premier ministre indien, a également annoncé la création d'une alliance internationale pour le solaire. En fait, l'Inde a un appétit énergétique énorme. Depuis 2011, le gouvernement tente une libéralisation du secteur du charbon. Mais le monopole de la Coal India Limited passe mal. Grève à répétition, problème toujours récurrent de fiabilité et de sécurité des centrales, scandale de corruption. Le premier ministre indien a fini par ordonner par décret l'ouverture du secteur aux acteurs privés. Ceci permettrait de répondre aux besoins d'électricité de 300 millions de personnes, mais aussi d'éviter les coupures d'électricité chroniques, gênantes pour la population évidemment, comme pour la fête des Lumières de Diwali en 2011 évidemment, et très handicapantes pour l'industrie. Depuis les années 90, une partie de cette industrie indienne s'est organisée pour éviter les risques de coupure, c'est l'ICCPA, l'Union des industries productrices d'énergie captive. Captive parce qu'elles possèdent leur propre centrale, elles représentent 20% de la production électrique indienne, et en ce moment le syndicat affirme manquer de 37% de charbon à brûler. Alors le doublement de cette production, son secrétaire général, Rajiv Agrawal, n'y croit pas beaucoup. Écoutez, il est au micro de Xavier Martinet.
En Inde, tout le monde aimerait que ce soit le cas, mais nous ne sommes pas certains que la production soit suffisante, ni que les capacités de transport ferroviaire soient à la hauteur. À l'heure actuelle, cette capacité est de 0,7 milliard de tonnes. D'ici 2020, ils ont prévu de faire passer cette capacité à 1 milliard de tonnes par an. Cela comprend non seulement le charbon, mais aussi toutes les autres matières premières et marchandises. Alors, à l'horizon 2020, Coal of India pourrait donc produire 1 milliard plus un demi-milliard de tonnes dans le cadre d'investissements privés, de mines privées ou d'extractions commerciales. Et donc, si vous avez 1,5 milliard de tonnes de charbon qui sortent des mines et que votre capacité de transport par voie ferrée n'est que de 0,7 milliard, comment faites-vous? Il y a selon moi une grossière erreur de planification. Et c'est pour cela que je dis même que si je leur souhaite de réussir et d'atteindre leur objectif, j'ai quand même de gros doutes parce qu'il est difficile d'imaginer qu'on pourra transporter autant de charbon et l'utiliser dans des centrales. C'est vraiment très difficile à croire.
Alors une autre annonce récente du secrétaire d'État au charbon Anil Swarup, c'était il y a deux jours sur Twitter, il annonçait une baisse de 34% des importations de charbon étranger en Inde. Là aussi c'est inédit. Comment est-ce que vous vous expliquez cela alors que vous dites précisément manquer de charbon à brûler en Inde?
Il y a une baisse, un ralentissement généralisé de la demande et la CIL, Coal India Limited, en fait les frais. Les centrales ont des stocks à ne plus savoir quoi en faire et on assiste également à des vols de charbon sans précédent pour un usage ménager. Bref, il va y avoir une baisse nationale de la demande, sans oublier les importations, parce que les prix de Coal India sont très élevés par rapport au prix à l'importation actuelle, exprimé en fonction du pouvoir calorifique. Et donc ceux qui n'arrivent pas à obtenir du charbon, ou en tout cas un charbon de qualité correcte auprès de Coal India, essaient d'obtenir du charbon et du coke importés. C'est vraiment la grosse tendance des 5 ou 6 derniers mois, et je dirais même des 4 derniers mois.
Et donc aujourd'hui, quelle serait votre priorité pour vous, industriel? Est-ce que ce serait obtenir un prix plus bas sur le charbon, quitte à l'importer? Ou alors est-ce que ce serait favoriser, on pourrait dire, une maximisation de la production de charbon en Inde pour arriver finalement à l'obtenir moins cher et sur place?
Alors, je vous explique rapidement le contexte avant de répondre, si vous me le permettez. À parité de pouvoir d'achat, en sortie de mine, le prix du charbon indien est de 16 dollars la tonne, alors qu'il est de 8 dollars la tonne en Chine. Cela signifie que le prix du charbon indien est en soi très élevé. Et de plus, ce charbon n'est pas un charbon de haute qualité énergétique, comme le charbon australien ou le charbon africain, par exemple. Le charbon disponible est utilisé en Inde, est un charbon thermique de faible qualité et à forte teneur en cendres. Le coût du charbon, mais aussi le coût de la production énergétique, à parité de pouvoir d'achat, sont parmi les plus élevés. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, l'économie indienne a une capacité d'absorption des prix limitée. Et si l'on parle d'importation en valeur absolue, c'est-à-dire en dollars absolus par tonne, cette différence entre parité de pouvoir d'achat et dollars absolus constitue une charge évidente pour l'économie locale. Et c'est ce qui met mal à l'aise l'industrie indienne depuis des années.
D'accord, donc pour le moment, on comprend que vous ne croyez pas à une quelconque vertu de la privatisation du secteur.
Privatiser l'industrie houillère n'est pas un problème, absolument pas. Le problème, c'est le modèle qu'ils tentent d'appliquer en augmentant le prix de référence national. Je vais vous parler de deux déclarations faites et reprises par la presse en mai 2015. Dans le premier cas, lors d'une conférence aux États-Unis, un ministre a déclaré que l'Inde avait besoin de charbon bon marché parce que les Indiens n'ont pas les moyens de payer cher l'électricité. Le même jour, un responsable de Glencore annonçait à Paris que l'Inde a besoin de charbon bon marché et qu'il ne fallait pas l'empêcher d'utiliser du charbon. Ces deux déclarations sont totalement liées à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Glencore, ou une société qui n'a pas d'activité en Inde, plaide-t-elle sa cause? Parce qu'ils veulent vendre leur excédent de charbon à l'Inde. Et ils ne pourront le faire que si les prix indiens intérieurs restent élevés et donc proches des prix livrés. Et c'est mon avis personnel, c'est un avis que partagent aussi de nombreux Indiens, même s'ils n'en parlent peut-être pas ouvertement. Le fait est que, quelle que soit la politique du gouvernement aujourd'hui, elle passe toujours par une mise aux enchères des mines de charbon, une vente aux enchères sur des volumes de pétrole futur, ce qui montre bien que le premier but recherché est bien d'augmenter le coût absolu du charbon pour le pays, afin que les prix intérieurs respectent une certaine parité avec les prix livrés et non la parité du pouvoir d'achat. Et lorsque le gouvernement parle de doubler la production de charbon, ce qu'il cherche, ce sont évidemment des IDE, des investissements directs à l'étranger. Tous ceux qui prévoient d'investir dans le secteur du charbon en Inde seraient ravis de savoir qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en rachetant des mines indiennes parce que les prix intérieurs sont élevés.
Et alors vous, les industriels qui négociez avec le gouvernement indien, qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Eh bien, nous leur disons, vous ne devriez pas gonfler les prix nationaux de l'énergie. Mais ils ne pensent qu'aux IDE, les investissements directs à l'étranger, dans le secteur du charbon, même si nous savons pertinemment qu'en Inde, il y a les fonds nécessaires, il y a des entreprises qui peuvent investir dans le charbon. Prenez par exemple Adani. Ils sont partis en Australie où ils prévoient de lancer une exploitation minière. C'est un immense projet. Alors pourquoi ne pas investir ici en Inde ? Ils ont tout à fait les moyens de le faire. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce n'est donc pas que les Indiens n'aient pas de quoi investir dans l'extraction minière. Et de grandes compagnies minières comme Vedanta font déjà de l'extraction d'oxyde parce que c'est leur domaine. Ils extraient aussi du minerai de fer, ils le font. Il y a donc suffisamment de sociétés indiennes pour gérer l'extraction de charbon en Inde et c'est donc pas ça le problème.
Et précisément, vous parlez des mines étrangères en Australie. Là, on voit que Coal India Limited, l'entreprise d'État qui exploite déjà du charbon au Mozambique depuis 2009, vient d'annoncer il y a quelques jours qu'elle avait l'intention d'acheter 2 mines supplémentaires, cette fois en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous, industriel indien ? Est-ce que vous voyez là de nouvelles opportunités, peut-être de charbon moins cher ou de meilleure qualité ?
Being a government company, though Coal India government is trying to dilute the shareholding.
Alors oui, c'est une entreprise d'État, mais même si le gouvernement tente actuellement de diluer l'actionnariat de Coal India, je ne pense pas que cela fasse une grosse différence. Ils ne seront qu'un acteur de plus sur le marché, c'est tout. Ils auront probablement un portefeuille plus diversifié avec sans doute des mines produisant un charbon de meilleure qualité énergétique. Mais au plan national, même s'il y a suffisamment de réserves disponibles, de nombreux bassins houillers en Inde, la tendance qui se profile à l'horizon 2035 ou 2050, c'est que les énergies renouvelables joueront un rôle de plus en plus prépondérant dans le pays. Les gens attendent simplement que les technologies de stockage de ces énergies renouvelables baisse. Le jour où ce sera le cas, l'Inde passera au tout solaire et renouvelable. Et là, il va sans dire que le secteur du charbon sera sous pression.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Rajiv Agrawal, donc le secrétaire de l'Union des industries productrices d'énergie captive au micro de Xavier Martinet. Réaction avec vous Jean-Marie Martin Amourou en duplex toujours depuis Grenoble sur cette Inde qui a une place particulière évidemment dans ce marché du charbon et puis dont on pourrait se demander aussi si finalement elle ne pourrait pas jouer le rôle de locomotive que la Chine a joué ces 2-3 dernières décennies.
Oui. L'analyse qui vient de nous être présentée est tout à fait exacte. Les utilisateurs indiens de charbon, qui sont à la fois des industries grosses consommatrices comme la sidérurgie, la chimie, la cimenterie, et les industries productrices d'électricité, se débattent depuis des années face à un approvisionnement insuffisant de la part de Coal of India. Alors, pour des tas de raisons qui seraient un petit peu longues à analyser, qui tiennent probablement à l'organisation un peu bureaucratique de cette grande entreprise publique, qui tiennent aussi à des difficultés d'ouverture de nouvelles mines, notamment dans des régions boisées, ce qui soulève les protestations des habitants. Pour toutes ces raisons, l'Inde a ouvert depuis un certain nombre d'années ses ressources minières à des mines captives, c'est-à-dire à des entreprises qui extraient du charbon uniquement pour leur propre usage, qui ne peuvent pas le revendre. Donc, nous sommes arrivés à une situation assez complexe d'approvisionnement de l'Inde en charbon, qui est à l'origine d'un très grand flux d'importation de charbon depuis l'Indonésie, l'Australie et l'Afrique du Sud. Alors, lorsque l'on regarde maintenant les perspectives, vraisemblablement, à 20, 30, 40 ans, les énergies renouvelables prendront en Inde comme ailleurs une place beaucoup plus importante. Mais pour arriver à cet horizon, L'Inde ne peut pas se passer d'une forte croissance de sa consommation de charbon et vraisemblablement aussi de ses importations de charbon pour les raisons suivantes. Tout d'abord, elle doit faire face à une croissance de la demande d'électricité tout à fait considérable, dans la mesure où une bonne partie de la population, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, n'est pas approvisionnée en électricité. Une autre partie est approvisionnée, mais à des conditions très difficiles, puisqu'elle doit faire face à des coupures d'électricité à longueur de journée.
Énergies renouvelables ne suffiront pas à approvisionner
exactement.
Ces nouvelles populations. Ouais.
Et comme l'a dit votre interlocuteur, ces énergies renouvelables ne seront vraiment la solution que lorsqu'on aura des possibilités de stockage, bon, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, en attendant, que peut faire l'Inde? Ce qu'elle a essayé pendant un certain temps, c'est de remplacer son thermique charbon par du thermique gaz. Mais elle n'y est jamais parvenue, d'abord parce que ses propres ressources en gaz sont très limitées, et ensuite parce que toutes ses tentatives d'importer du gaz depuis les pays exportateurs ont échoué, pour des raisons politiques. D'un côté, parce que le Pakistan n'a jamais voulu laisser passer un tuyau en provenance de l'Iran ou de l'Asie centrale, et d'autre part, parce que le Bangladesh, à l'Est, a fait de même pour un approvisionnement qui aurait pu venir de ce côté.
Donc on voit bien qu'à moyen terme, il n'y a pas de solution alternative, et finalement, le charbon sera la règle pendant encore quelques années. Je vous propose peut-être de nous rapprocher peut-être un petit peu de cette Europe, de l'Europe où on se trouve, parce que malgré les efforts en matière d'énergie renouvelable, malgré le paquet énergie-climat prévoyant la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique de 20% d'ici à 2020, et puis cet objectif de 20%, enfin maintenant même de 27% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, force est de constater qu'en réalité, ce charbon, il est encore présent en Europe, et notamment dans deux pays, l'Allemagne et la Pologne. Quand on regarde la carte de l'Europe, on trouve 280 centrales à charbon dans 22 États membres, dont 71 en Allemagne et 47 en Pologne. Ensuite, on a la République tchèque avec 45 centrales. Et puis en France, on en a, nous, seulement 4. En Allemagne, le charbon, c'est 45% du mix électrique. Et en Pologne, c'est plus des 3/4. Direction la Pologne, justement.
Nous travaillons ici 24 heures sur 24. Trois équipes se relaient 7 jours sur 7. Et c'est comme ça depuis tellement d'années, depuis l'époque où la Pologne était communiste. Et cela n'a pas changé.
Le charbon est très important pour nous. Bien sûr que la Pologne doit être dynamique et prendre toute sa part dans l'Europe, parce que c'est ce qui crée des emplois, c'est ce qui permet de combattre le chômage. Donc c'est très important.
L'Union européenne va nous bouffer. Pour les Polonais, c'est dangereux, c'est un secteur conséquent. Mais il n'y a personne pour nous défendre. Je pense que le gouvernement laissera faire l'Europe.
L'Europe accuse le charbon de tous les maux. D'après ce que je vois, ça va être très dur pour nous ici. Il faut bien vivre, nous avons nos familles à nourrir. Ok, on pourrait construire des éoliennes, et puis après.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé sur France 24. On voit qu'en Pologne, ce charbon prime toujours sur les énergies renouvelables, malgré les injonctions de l'Europe. On va retrouver un nouvel invité, Michel Valdelièvre. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur, spécialiste du charbon, un ancien employé de Total, je le précise. Pourquoi l'Allemagne et la Pologne sont encore attachées à ce charbon alors que nous le voyons comme une vieille source d'énergie d'une certaine manière, pas une énergie du futur? Comment expliquer cet attachement? Est-ce que c'est pour protéger justement les emplois dont on entendait quelques mineurs à l'instant, Michel Valdelièvre?
Tout à fait, vous avez raison. D'abord, c'est l'Europe a bâti son développement industriel au 19e siècle comme le continent nord-américain sur le charbon, ce qui a permis un essor mondial de ces deux régions. Alors, il reste des traditions, et puis il faut aussi faire la différence entre les pays d'Europe de l'Ouest qui ont fait leur transition, et puis des pays plus traditionnels de ex-Europe de l'Est. Alors, la situation est un peu différente en Pologne et en Allemagne. Les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où en Allemagne, suite au plan de fermeture des centrales nucléaires, il fallait trouver face aux énergies renouvelables qui sont devenues très importantes sur le réseau, mais qui sont intermittentes, il fallait trouver un backing par une énergie fossile. L'Allemagne avait le choix entre le charbon et le gaz, et compte tenu des prix de ces deux énergies, et comme l'a dit Monsieur Amourou très justement, lorsqu'on produit de l'électricité sur des centrales qui sont situées sur les mines de charbon, on a des prix extrêmement bas. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, entre l'électricité produite par du charbon, mettons $70 la tonne, ça va vous donner en prix coûtant. Hein, je parle pas de, je parle pas des amortissements des centrales, mais ce qu'on appelle les cash costs, qui servent à calculer les spreads, on a du $22 par mégawatt-heure hein, sur du charbon importé.
Michel Valdelièvre, vous le disiez à juste titre, la situation en Allemagne et en Pologne n'est pas la même. Vous aviez raison de rappeler qu'en Allemagne, bien sûr, Angela Merkel avait en mars 2011 décidé de s'engager dans une sortie du nucléaire. Donc évidemment, il fallait compenser. Et pour la Pologne, il y a peut-être aussi un autre enjeu, parce qu'il y a celui des emplois que j'évoquais, mais il y a aussi celui de l'indépendance énergétique. Peut-être que les Polonais... Alors, mais pour eux, la priorité, en tout cas l'une des priorités, c'est d'échapper à la dépendance au gaz russe.
Tout à fait. Alors justement, je termine sur mes prix. Du lignite au droit de la mine vous donne de l'électricité à peu près à $12 le mégawatt-heure, alors que du gaz importé, sur la base du marché actuel autour de $6 le million de BTU, ça vous donne de l'électricité à 37. Vous voyez, entre le lignite et le gaz importé, on a un facteur pratiquement 3. Alors maintenant, derrière ces problèmes, l'Allemagne a fait sa mutation au niveau des mines profondes. Elles sont pratiquement toutes fermées. Il en reste il en reste deux en activité. Par contre, l'Allemagne a fortement investi dans les mines à ciel ouvert de production de lignite avec, comme vous l'avez vu là, des prix d'électricité extrêmement bas. Alors, je viens à la Pologne, qui est un pays traditionnellement minier. Où on va faire la distinction entre le charbon qui est de lignite et le charbon domestique. Alors,
est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Michel Valdelièvre, répondre à cette question du poids de l'indépendance énergétique dans ce choix du charbon en Pologne?
Alors, c'est-à-dire, vous voulez au niveau de la production d'électricité?
Absolument.
Oui. Alors, l'Allemagne dépend pour sa génération électrique à 44% de l'électricité vient du charbon, alors que la Pologne est autour de 80%.
D'accord. Donc pour la Pologne, non mais on est d'accord sur le point suivant.
83%
Michel,
exactement.
83%. Mais en tout cas, l'idée aussi derrière tout ça, qui explique cette part absolument énorme du charbon dans la production électrique en Pologne, c'est que ça permet d'échapper au gaz russe. On est bien d'accord.
Alors tout à fait. Je crois que la Pologne a vécu un traumatisme dans ces dernières années vis-à-vis de son grand voisin, la Russie, et la Pologne voudrait conserver une indépendance énergétique. Hein.
Jean-Marie,
alors tout à l'heure, vous m'avez posé la question du personnel. Alors la Pologne a une fraction de population très importante de liée à l'industrie du charbon.
100 000 emplois en Pologne.
120 000 personnes aujourd'hui qui dépendent de l'industrie du charbon. Hein, parce qu'il y a une bonne partie qui est encore souterraine, même s'il y a à peu près moitié-moitié lignite et charbon souterrain. Hein. Mais il y a quand même encore 120 000 personnes qui dépendent du charbon. Donc derrière, ça a un coût social important et l'Allemagne comme la Pologne ont une industrie charbonnière performante et moderne qui s'exporte également. Donc il y a des emplois indirects.
Je voudrais donner la parole à Jean-Marie Martin-Amourou qui est avec nous en duplex pour avoir votre point de vue sur ces résistances européennes dans ce paysage du charbon. L'Union européenne, elle subventionne le charbon à hauteur de 10 milliards d'euros chaque année. Et pourtant, il y a évidemment beaucoup
beaucoup de critiques sur ces politiques de soutien. D'ailleurs, vous avez probablement entendu en juin dernier ce fonds souverain de la Norvège qui a décidé d'arrêter d'investir dans le charbon. Par ailleurs, les subventions du côté de l'Allemagne vers le charbon vont s'arrêter très bientôt, je crois d'ici 2 ans. On est quand même dans une dynamique où, à relativement moyen terme, l'Europe devrait définitivement se couper du charbon? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Alors, d'une part, comme vous venez de le dire, les subventions au charbon, dans le cadre de la législation européenne, vont cesser en 2018. Ce qui, incontestablement, constituera un handicap pour un certain nombre de compagnies minières. Mais, d'autre part, comme votre interlocuteur vient aussi de le dire, le charbon exploité à ciel ouvert, notamment les mines de lignite exploitées à ciel ouvert et utilisées sur le carreau de la mine dans des centrales thermiques très performantes, très modernes, permet de produire à l'heure actuelle de l'électricité à des prix qui sont incontestablement beaucoup plus bas que ceux que l'on pourrait obtenir avec des sources d'énergie, d'autres sources d'énergie. Bien. Donc, je n'imagine pas qu'au cours des toutes prochaines années, ce recours au charbon puisse diminuer considérablement. Il est sur une pente incontestable, mais je ne pense pas que cette pente puisse devenir plus forte. Alors, tout au moins...
Enfin, si on veut respecter quand même les engagements, pardon de vous couper Jean-Marie Martin Mourou, si on veut respecter les engagements européens pris dans le cadre du paquet énergie-climat, avec ses 27% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, on se demande quand même si l'Allemagne et la Pologne vont pouvoir rester dans cette logique du charbon.
Oui, mais tout dépend comment en sortir. Donc, ce que je crois que la seule solution serait que l'Europe soit capable de mettre en place un marché du carbone sur lequel les prix du carbone montent suffisamment pour rendre le charbon moins compétitif. Mais tant que ce ne sera pas le cas, tant qu'on aura du carbone à moins de 10 euros la tonne, comme c'est le cas à l'heure actuelle, je vois mal comment des pays comme la Pologne, l'Allemagne et aux pays auxquels il faut ajouter un certain nombre de pays des Balkans, la Serbie, la Croatie, où on continue à construire des centrales thermiques, la Turquie, qui est en train de développer considérablement ses mines de lignite pour approvisionner un parc de centrales thermiques, lui aussi en expansion. Je vois mal comment cette diminution va devenir effective.
Michel Val-de-Lièvre, vous êtes sur la même ligne, si je puis
Merci,
dire.
Merci, oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Amourou, ça fait toujours plaisir. ce que je voulais dire, c'est que dans les nouvelles centrales, enfin, l'Allemagne et la Pologne sont très bien placées, il y a quand même une évolution de technologie assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des centrales thermiques qui produisent beaucoup plus d'électricité pour la même tonne de charbon. Ça veut dire tout simplement qu'on a des technologies qui permettent d'avoir des rendements nettement supérieurs. Et sachez par exemple que la moyenne mondiale des centrales, c'est à peu près 33% de rendement. Et les dernières centrales construites en Allemagne et en Pologne, j'insiste bien sur du lignite, sont des centrales maintenant autour de 40-45%, qui permettent de couper les émissions de CO2 pratiquement de 20% par rapport à ce qu'elles étaient.
Je vous concède que ce ne sont pas les centrales que nous avions il y a 40-50 ans, mais pour autant, elles polluent quand même beaucoup.
Elles polluent beaucoup moins.
Elle pollue quand même beaucoup.
Alors, pourquoi on dit que nos centrales polluent? Il faut savoir qu'aux États-Unis comme en Europe, on a un parc de centrales dont pratiquement la médiane est à plus de 50 ans d'âge. Donc vous imaginez que ces centrales, qui sont des centrales, comme je dis toujours, des centrales de grand-papa, sont complètement en dehors du jeu.
Et mais en même temps, la solution peut-elle être, Michel Val-de-Lièvre, de se contenter de changer, de rénover nos vieilles centrales pour avoir de
non,
vieilles centrales avec du charbon propre?
On peut pas rénover des anciennes centrales. Il faut passer sur des nouveaux procédés beaucoup plus performants et qui sont beaucoup plus efficaces.
Qui seront plus efficaces, mais qui ne rendront pas pour autant le charbon propre, comme on peut le lire parfois.
Ça dépend ce que vous appelez du charbon propre.
C'est à vous que je pose la question.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, la Chine et le Japon nous ont démontré déjà depuis plusieurs années que vous aviez des centrales avec des émissions des gaz oxyde d'azote et oxyde de soufre et de poussière qui sont pratiquement nuls, pratiquement à zéro, et que vous aviez maintenant des nouvelles centrales hyper performantes en Chine qui se généralisent. C'est pour ça tout à l'heure que quand M. Amourou disait que la consommation de charbon n'augmente peut-être plus, il y a une autre raison en Chine, c'est qu'on a des centrales beaucoup plus performantes et on produit plus d'électricité en consommant moins de charbon.
Michel Val-de-Lièvre, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je voudrais qu'on prenne à présent la direction, il nous reste quelques minutes, des États-Unis. Dans son dernier discours sur l'état de l'Union, Barack Obama s'était engagé à revoir la manière dont les États-Unis recouraient aux énergies fossiles et à développer les énergies propres. Et il avait évoqué justement la question du charbon. Écoutez.
Nous devons maintenant accélérer la transition vers de nouvelles énergies moins polluantes. Plutôt que de financer le passé, nous devons investir dans le futur, en particulier en aidant les communautés qui dépendent encore des énergies fossiles. Mais nous ne leur rendrons pas service si nous ne leur indiquons pas quelle est la direction à prendre. Et c'est pourquoi je vais changer la manière dont nous gérons nos ressources en pétrole et en charbon, afin que les coûts induits par l'utilisation de ces ressources et assumés par les contribuables et notre planète soient reflétés de manière plus fidèle.
Si vous prenez tout le bétail de la planète, il produit plus de gaz à effet de serre que le charbon. C'est scientifiquement prouvé. Est-ce qu'on va abattre tout le bétail de la planète? C'est juste un moyen de fermer les mines, de fermer l'est du Kentucky, de fermer toute la région des Appalaches.
Voilà, du discours au terrain, les choses se compliquent. Du discours à l'action, l'administration américaine a fait savoir récemment qu'elle allait modifier les modalités d'autorisation d'ouverture de nouvelles mines de charbon sur les terres fédérales, sachant que ça représente 40% du charbon sur ces terres fédérales. Jean-Marie Martin Amourou, qu'est-ce que tout cela va changer? Et plus généralement, est-ce que vous pensez que l'industrie du charbon, jadis florissante dans la Coal Belt, est condamnée?
Alors, le charbon aux États-Unis, après avoir cru de façon tout à fait considérable depuis le début du XXIe siècle, s'est stabilisé, a même un tout petit peu décru, mais en gros, disons que sa consommation s'est stabilisée entre 800 et 900 millions de tonnes depuis 2012-2013. Les perspectives actuelles ne sont pas celles d'un effondrement complet de cette consommation de charbon, mais plutôt, là encore, d'une certaine stabilisation, voire d'une légère décroissance.
Malgré la révolution du gaz et du pétrole de schiste ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout bonnement, parce que la consommation de charbon dans les centrales thermiques varie considérablement avec les prix du gaz. Lorsque le prix du gaz monte autour de 7 ou 8 dollars le million de BTU, on s'aperçoit que le charbon reprend
une bonne part de marché. C'est quoi le BTU?
Alors, c'est le British Thermal Unit. C'est l'unité conventionnelle par laquelle on mesure la production ou la consommation de gaz. Bon. Donc, et en revanche, lorsque ce prix tombe à 3 ou 4 dollars par million de BTU, eh bien, le charbon recule. Ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est que la part du charbon varie précisément en fonction de cette évolution des prix du gaz. Donc, première inconnue, comment va évoluer le prix des gaz de schiste aux États-Unis au cours des prochaines décennies. Deuxième inconnue, jusqu'à quel point les nouvelles régulations de l'Agence de protection de l'environnement seront appliquées. Vous savez que cette agence avait édicté des règles très strictes limitant les émissions de mercure qui sont associées aux émissions aux émissions de gaz des centrales thermiques. Or, la Cour suprême vient d'abolir ou de supprimer cette réglementation. Bien. Donc, la seule chose qui est certaine, c'est que compte tenu de l'âge du parc des centrales thermiques aux États-Unis, une bonne partie de ce parc, au cours des prochaines décennies, va disparaître. Par quoi sera-t-il remplacé? Pour l'instant, comme je vous l'indiquais, je pense que le principal facteur qui pourra nous dire comment ce parc va évoluer est celui qui est lié à l'évolution des prix du gaz. Bien. Alors à terme, naturellement, les énergies renouvelables sont en train de pousser, mais il va falloir encore plusieurs décennies avant qu'elles remplacent réellement la production d'électricité par des centrales thermiques.
Eh bien, qu'elles poussent encore ces énergies renouvelables, parce qu'après tout, on est tous favorables à cette évolution. Un grand merci à vous, Jean-Marie Martin Amour.
Like his dad and his dad before him. Yeah, he's a coal, coal mining man. Works with his hands, breaks his back. His lungs are black, that coal mining man.
Voilà, petit clin d'œil avec cette musique. Consacré au charbon. Je rappellerai pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette question du charbon, Jean-Marie Martin Amouroux, votre ouvrage Charbon, les métamorphoses d'une industrie, sous-titré La nouvelle géopolitique du 21e siècle, qui était paru aux éditions techniques. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin et je remercie également les techniciens qui ont permis de faire le duplex avec nous depuis Grenoble. Nous poursuivrons bien sûr nos pérégrinations énergétiques demain. Nous parlions aujourd'hui de charbon, nous parlerons demain de nucléaire.